magnifique. Et je crois, encore une fois, que c'est un rendez-vous qu'il nous a donné. Fut un temps, j'avais beaucoup de défauts. J'en ai toujours, mais ça se voit moins. Toute la semaine, je vivais pour moi. Je poursuivais mes propres passions. Et dans mon égarement, dans ma folie, je réservais quand même le dimanche à Dieu. Parce que j'avais la conviction que seul Dieu était capable de faire quelque chose pour moi. Ça, c'était la conviction même qui était dans mon cœur, même si je ne voyais pas les manifestations concrètes de cette conviction. Alors le dimanche, j'allais à l'église, je me calais dans un petit coin parce que je ne voulais pas qu'on me voie, j'avais honte de moi. Et je me mettais là dans un coin et ce que tout le monde ignorait, c'est que dans mon cœur, il y a une prière qui montait. Je suppliais Dieu de venir parler à mon cœur. Seigneur, parle à mon cœur. Seigneur, change-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur, agis dans ma vie. C'est une prière silencieuse que Dieu a entendue. Et à chaque fois que Dieu est venu parler à mon cœur, eh bien, cela a impacté ma vie. Et je peux dire aujourd'hui que, oui, Dieu parle. Et quand Dieu parle, il se passe quelque chose. Je crois que là où il y a la présence de Dieu, il se passe toujours quelque chose d'extraordinaire, de prodigieux, de magnifique. Cet après-midi, Dieu va parler. Il va parler. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il parle. Il parle. Et j'aimerais commencer mon message en vous racontant une petite histoire que j'ai partagée à mes frères hier en prison. Je vous le disais ce matin, j'ai jamais été autant en prison que depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur et je n'ai jamais parlé autant de prison que depuis que je suis engagé dans le ministère d'évangéliste. Parce qu'en fait, en vérité, il n'y a pas besoin d'être en prison pour être en prison. Il n'y a pas besoin d'être à la maison d'arrêt d'Angers pour être en prison. Le monde est la plus grande prison à ciel ouvert. Mais moi, j'étais, il y a quelques temps déjà, dans la plus grande prison d'Europe, à Fleury-Mérogis. Et beaucoup de gens s'étaient donné rendez-vous pour entendre le message de l'Évangile. Et en entrant dans l'amphithéâtre qui était réservé au culte, il y a un gars, un rasta, qui m'appelle Yanis. Je me dis, mince, mais qui m'a reconnu dans cet endroit? Pourtant, c'est la première fois que j'y mets les pieds. Plus je m'approche de la personne, plus je m'aperçois que c'est Polo. Et vous savez, Polo et moi, c'est une longue histoire qui remonte 17 années en arrière. À l'époque où on se côtoyait, Polo, c'était un rasta indigent qui dormait dans la cave et moi, j'étais le plus gros dealer du quartier. D'ailleurs, il n'était pas rare que Polo sorte de sa cave pour me demander de quoi fumer. Alors moi, je lui donnais une boulette de shit en lui disant « Polo, rentre dans ta cave, tu vas faire fuir ma clientèle ». Et là, Polo, il insiste pour que je vienne à ses côtés. Il m'appelle, il a le sourire jusqu'aux oreilles. Et je sais ce qu'il est en train de se dire. Il est en train de se dire, chouette, Yanis est de nouveau en prison. Je sais qu'il a de la drogue avec lui. Il va me donner de quoi planer un peu dans ma cellule. Ça va être super. Alors, je m'approche de Polo, je le salue. Et il me dit, Yanis, vas-y, raconte-moi. Mais qu'est-ce que tu as encore fait comme bêtise pour être en prison? Je lui dis, mais non, Polo. Aujourd'hui, c'est moi l'invité. C'est moi qui suis là pour partager la parole de Dieu. Polo me regarde, il fait la grimace, il ne me croit pas. Et il me dit, Yanis, depuis que je te connais, tu n'as jamais respecté qui que ce soit. Et je m'aperçois que tu ne respectes même pas Dieu. Allez, s'il te plaît, assieds-toi, on va écouter le sermon du pasteur. OK. Et pendant que nous sommes en train de louer et d'adorer le Seigneur, il me tape sur l'épaule et me dit à l'oreille, Yanis, j'ai oublié de te demander, t'as de la drogue avec toi ? Et à la fin, le pasteur dit, voilà, aujourd'hui, nous avons un invité, quelqu'un qui a connu le milieu carcéral et qui va vous raconter tout ce que Dieu a fait dans sa vie. J'ai nommé Yanis Gauthier. Je me lève, je m'approche et je commence à décliner l'amour de Dieu à tous mes frères. Je commence à leur raconter les hauts faits de Dieu dans ma vie. Je commence à leur dire Comment Dieu m'a libéré de la drogue? Comment Dieu a reconstruit ma vie? Comment il a redonné un sens à ma vie? Et à la fin, je fais un appel. Je dis haut et fort, il y a peut-être quelqu'un ce matin qui veut confier sa vie au Seigneur. Il y a peut-être quelqu'un ce matin qui veut expérimenter la grâce de Dieu dans sa vie. Il y a peut-être quelqu'un ce matin qui veut s'approcher du Seigneur. Tous les prisonniers se lèvent, s'approchent. C'est au tour de Paulo. Il est devant moi, il est en larmes. Et il me dit, Yanis, tu sais quoi? Lorsque j'étais enfant, j'allais à l'église. J'allais à l'école du dimanche. Le soir, mon père me racontait les histoires de la Bible afin de m'endormir. C'était tellement beau, c'était tellement merveilleux. Mais à un moment donné, Yanis, j'ai commencé à faire des bêtises. Et à force de les accumuler, j'ai vraiment cru que Dieu était en colère contre moi. Alors, j'ai fermé ma Bible, j'ai tourné le dos à l'église, croyant fermement qu'un jour, la main de Dieu allait venir me frapper, me châtier. Tellement j'étais mauvais, tellement j'étais mauvais. Mais, en entendant ton témoignage, Yanis, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. Parce que moi, je sais quel type d'individu tu étais. Tu étais bien plus méchant que moi. Tu étais bien plus mauvais que moi. Alors là, sur ma chaise, je me suis dit en moi-même, mais ce n'est pas croyable, ce n'est pas pensable. Si Dieu a pu changer quelqu'un comme toi, si Dieu a pu pardonner quelqu'un comme toi, il peut me changer et il peut me pardonner. Me voici ici, Yanis, je veux confier ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Quand je vois ça, je me dis, oui Seigneur, c'est pour ça que je vis. Pour voir ta main puissante arracher les ténèbres, les perdus, pour les transporter dans ton royaume de gloire, ton royaume d'amour. Oui, s'approcher du Seigneur, c'est passer de l'esclavage à la liberté, de la mort à la vie. S'approcher, confier sa vie au Seigneur, c'est passer de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté. C'est expérimenter la puissance de l'amour de Dieu dans sa vie. Et cet après-midi, je suis absolument convaincu que Dieu va parler. Marc 5, versets 1 à 20. Nous allons en faire la lecture. Il est dit ceci. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux et il était animé d'un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent, on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes. Mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » En effet, Jésus lui disait « Sors de cet homme, esprit impur. » Et lui demanda « Quel est ton nom ?»« Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, » répondit-il. Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers les montagnes, un grand troupeau de porcs qui paissait. C'est pas la même traduction. Il y avait là vers les montagnes un grand troupeau de porcs qui paissait. Et les démons le prièrent, disant « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Et il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans toute la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous furent dans l'étonnement. Amen. Jean 10, verset 10, il est dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Tout ce que le diable fait dans la vie d'un homme est dans le seul but de le détruire. Jésus-Christ a dit dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus est celui qui libère. Jésus est celui qui est capable d'amener une personne à découvrir la pleine liberté sur la terre. Nous le savons, nous le voyons, le monde gît sous la puissance du malin. Mais au sein de ce monde, en confiant sa vie au Seigneur, il est possible d'expérimenter la liberté. Et le mot Gadara veut dire ce qui est entouré d'un mur. C'est un lieu clos, isolé et coupé du monde. Et il nous est dit que cet homme avait établi sa demeure au sein des sépulcres. Psychologiquement, il avait un véritable problème puisqu'il était possédé. Et les gens qui vivaient aux alentours, voyant l'état de cette personne qui était un réel danger, ont trouvé une solution pour stopper, pour réfréner les débordements de la chair, pour mettre fin à ses excès de colère. On lui a mis les chaînes aux pieds et il nous est dit, là encore, que lorsqu'il était saisi de ces terribles assauts démoniaques, il avait la force de briser les chaînes, il avait la force de rompre les fers. Et comme pour évacuer une souffrance, une détresse intérieure, il criait sa misère et se tailladait le corps avec des pierres. Quel tableau! Mon premier point, il est simple. 21 siècles plus tard, aujourd'hui, notre société ne manque pas de mouvements, de méthodes pour stopper le débordement de la nature humaine. Je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, mais je sais une chose, et j'en ai fait ma propre expérience. D'ailleurs, encore plus simple, j'ai une fille de 5 ans qui aime beaucoup le Nutella, et nous habitons un duplex. Alors que j'étais en train de dormir, ma fille s'est levée, elle a descendu les escaliers, j'ai entendu les escaliers grincer. Elle est descendue dans la cuisine, elle a mangé quelques cuillères de Nutella, et elle est remontée tout doucement. J'ai fait mine de ne pas l'avoir entendue. Je me suis tourné vers elle, je l'ai regardée. J'ai pris mon téléphone portable et je l'ai filmé en lui posant une question. Eden, est-ce que tu as mangé du Nutella ? Non, papa. Tu es sûr ? Non, papa, je te le promets. Je n'ai pas mangé de Nutella. Mais le problème, c'est qu'elle en avait partout sur la bouche. En fait, c'est un constat que j'ai fait aussi sur ma personne. C'est-à-dire que ma chair, elle ne veut pas s'améliorer. J'ai beau essayer de la discipliner, je ne sais pas pour vous, mais moi, par exemple, j'ai un réveil sur mon portable. Pasteur, peut-être que tu fais mieux que moi, mais à 6 heures du matin, il se met à sonner avec l'intitulé « C'est l'heure de prier ». Et ma chair me dit « Reste une heure de plus allongée. T'es tellement bien là, sous ta couette. » En fait, il y a toujours un dilemme. Quand il y a un bon match de football et qu'il y a une réunion de prière, je sens ma chair qui bouillonne. Reste sur ton canapé, regarde ton match de football. Hein, ça ne sert à rien d'aller à l'église. Mais ça, c'est constamment, quoi. Tiens, dernièrement, j'étais à un carrefour et il y avait une dame qui était au feu rouge, du moins qui passait au vert. Elle était au téléphone, discutait, blablabla. Madame, le feu, il est vert, avancez. Et là, je sens encore la vieille nature qui essaie de prendre le contrôle de ma bouche. En fait, on s'aperçoit que la chair est inimitié avec la volonté de Dieu. Romains 8, versets 5 à 8, il est dit « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Car, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Aujourd'hui, nous avons des méthodes pour stopper le débordement de la nature humaine, une nature qui ne va jamais s'améliorer. Si vous voulez vivre pour Dieu, si vous voulez appliquer la parole de Dieu, la vivre au quotidien, il faut laisser l'Esprit de Dieu vous guider. Parce que seul l'Esprit de Dieu est capable de dompter la nature humaine. Ce ne sont pas les méthodes, les structures que notre société met en avant qui vont stopper le débordement de la nature humaine. Je ne les condamne pas, ces structures. C'est simplement un constat. Éphésiens 6, verset 12, il est dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est le diable qui influence, c'est le diable qui pousse l'homme vers le chaos. Et on a beau essayer de lutter contre les effets du péché, on n'arrive pas à solutionner le problème du péché. Par exemple, on a des prisons. Et dans les prisons, il y a des prisonniers. Et malheureusement, parmi ces personnes, souvent, on rencontre des multirécidivistes. Ce sont des personnes qui vont vous dire « Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je retrouve la liberté, je suis poussé à transgresser de nouveau les lois qui régissent la société. » Nous avons des hôpitaux psychiatriques où on interne des personnes qui souffrent de pathologies schizophréniques, pathologies psychologiques. Mais là encore, quand vous discutez avec des médecins, ils vont vous dire qu'il y a des pathologies telles que la schizophrénie qu'on ne peut pas résoudre. Alors on donne des camisoles thérapeutiques à ces personnes, histoire de contenir l'état de ces personnes. Nous avons des centres de désintoxication, et notre sœur qui est là pourrait vous en parler en long, en large et en travers. Et là encore, on interne des personnes à qui on donne des médicaments qu'on fait suivre par des médecins, qu'on fait entrer dans des cures, dans des post-cures. Résultat, ils sautent aux yeux. Aujourd'hui, on expérimente des salles de shoot à Paris pour permettre aux drogués de se shooter avec des conditions d'hygiène adéquates. Quand vous allez à Amsterdam, il y a des coffee bars. Bref, les gens peuvent fumer comme ils veulent, en toute impunité. Le constat est alarmant. Quand vous discutez avec des personnes qui sont en souffrance, ils vont vous dire « J'ai tout essayé, j'ai fait des cures, j'ai pris des traitements, j'ai tout essayé, mais c'est plus fort que moi. » À chaque fois que je me drogue, je sais que c'est ma vie que je détruis, mais c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Combien de personnes jeunes sont mortes d'overdose? J'en parle dans mon livre Addiction que j'ai présenté hier. C'est un livre vraiment, je vous encourage à prendre pour vous à titre peut-être curatif ou à titre préventif. Si vous n'êtes pas concerné, peut-être quelqu'un de votre famille, peut-être vos enfants, ne serait-ce que pour savoir les mécanismes de la dépendance, ne serait-ce que pour mettre une image sur un mot, par exemple le cannabis, l'ecstasy, le crack, la cocaïne, toutes ces drogues les plus prisées du XXIe siècle font des dégâts, des dommages collatéraux qui sont importants. Et ce qui nous fait mal, c'est le manque d'informations. Et voilà pourquoi je recommande ce livre, parce que c'est 30 années de ma vie où j'ai côtoyé cet univers. Vous savez, je n'ai pas appris ce que j'ai mis dans ce livre dans d'autres bouquins. C'est dans ma vie que je l'ai appris. J'ai vu l'œuvre de l'ennemi dans ma vie. J'ai appris les mécanismes de la dépendance. Je connais les souffrances. Un ex-drogué me disait dernièrement, Yanis, j'ai lu ton livre, on dirait que tu es rentré dans mon cerveau. Et il faut se mettre à la place par des personnes qui sont en souffrance. Et moi, j'ai vécu dans la souffrance et franchement, j'avais beau lutter, j'avais beau essayer, rien à faire, quoi. Il fallait que Dieu intervienne. Je me souviens, vous savez, bon, déjà, mon père était alcoolique, ma mère est alcoolique. Humainement parlant, je suis né avec un patrimoine génétique qui me prédestinait à devenir un alcoolique. Et à l'âge de 14-15 ans, j'ouvrais mes premières canettes. Waouh! Là, c'était plutôt le côté festif. Et les années vont passer et je vais m'enliser dans la bouteille au point de devenir une véritable épave, une éponge, un poivreau, un ivrogne. Il n'y en avait pas deux comme moi à la cité. Je vous assure, quand j'allais au bistrot, le patron sortait pour m'accueillir. Elle était contente, elle allait faire une bonne recette. Les bouteilles se mettaient à trembler. Les bouteilles de rhum avaient peur de moi. Jamais une bouteille ne m'a fini, c'est toujours moi qui l'ai couchée. Et l'alcool, pour moi, c'était, comme je le dis dans mon livre, témoignage, mon ami silencieux, celui qui m'accompagne dans les bons jours et surtout dans les mauvais jours. En fait, j'étais lié à l'alcool et je revois encore mon épouse qui lisait sa Bible à la maison. Moi, je rentrais avec mon pack de bière préférée, la bière du démon, 12% de plaisir diabolique que je posais là, à côté de sa Bible, et je lui disais, ton Dieu peut rien faire pour moi. Voilà ce qui peut résoudre mes problèmes. C'est la bière, c'est l'alcool. En fait, j'aimais plus l'alcool que ma femme. Bien sûr, après, Dieu est venu à ma rencontre, il m'a sauvé de l'égarement, et je dois dire que j'ai vraiment cru que j'en avais terminé avec l'alcool. Parce que désormais, j'avais une vie bien rangée. Je travaillais la semaine, j'étais un bon père. Mais ce lien qui était là, même s'il était moins probant, il était toujours présent. Et je me revois après une bonne semaine de travail, lorsque je me mettais sur mon canapé le vendredi soir pour regarder mon feuilleton préféré, Les Feux de l'amour. Là, non, c'est pour voir si vous êtes avec moi. Là, il y a une voix qui commençait à résonner en moi. C'est ton heure. C'est ton heure. Tu l'as bien mérité, ta petite bière. Moi, c'était la bière. Et je n'avais pas envie de boire. Et bien sûr, j'engageais une bataille. Je luttais. Je résistais, mais à un moment donné, je cédais. Alors, j'allais chez Mohamed l'épicier. Une petite bière. Et la petite bière ne suffisait pas. Il fallait que je boive encore et encore. Et le lundi matin, je me mettais sur les genoux, là. Parce que j'aimais Dieu. J'avais un problème, mais j'aimais Dieu. Alors je suppliais Dieu de me pardonner. Seigneur, pardonne-moi, je ne recommencerai plus. Mais le vendredi d'après, boum. En fait, j'étais dans un cycle péché, confession, repentance, sans jamais trouver la véritable liberté. Pendant la semaine, je lisais des autobiographies d'hommes que Dieu avait utilisés. Et ma prière du soir, c'est « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». J'étais absolument convaincu qu'une rencontre avec Dieu pouvait changer ma vie à tout jamais. Alors tous les soirs, je disais « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Et une nuit, j'ai fait un rêve. Alors pas celui de Martin Luther King, mais de Yanis Gauthier. Complètement différent celui-là. Puisque j'arrivais à l'église complètement bourré. Deux costauds qui étaient là en me voyant arriver en titubant. Me disent, Yanis, tu es ivre, rentre chez toi. T'es cuve. Je commence à argumenter avec eux, toute l'église commence à regarder, à découvrir mon péché caché. Et là, je me dis, mince, je vais rentrer à la maison, c'est mieux. Et je suis en train de pleurer sur la route et là, j'entends la voix de Dieu qui me dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'explique à Dieu ce qui s'est passé en lui disant que c'est fini l'église. Plus personne n'acceptera. Je prie pour elle, que je l'exhorte. Je suis plus crédible. C'est terminé, je ne mettrai plus les pieds dans cette église. Et le Seigneur me dit, mais non, ce n'est pas fini. J'ai mis un appel sur ta vie. Je veux que tu ailles témoigner. Et là, je dis à Dieu, mais comment tu veux que j'aille dire aux captifs que tu es capable de les libérer, alors que moi-même je suis un esclave, c'est pas possible. Et le Seigneur me dit non, pour ce qui est de l'alcool, je te libère, maintenant va et témoigne. À mon réveil, je me suis posé une question. Est-ce vraiment Dieu qui est venu parler à mon cœur? Est-ce que véritablement j'ai rencontré Dieu? Et alors que j'ai voulu mettre le pied par terre, je me suis retrouvé plaqué, paralysé au sol, et j'ai senti la puissance de Dieu m'envahir, encore et encore, en un instant, en une fraction de seconde. Le Seigneur m'a totalement libéré de l'alcool. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. C'est ton heure. Peut-être que cette question, en tout cas cet appel, tu le connais, c'est ton heure. C'est l'heure de t'exécuter. C'est l'heure de faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. C'est ton heure. Cette voix mensongère qui te fait croire que tu es né pour être un esclave. Cette voix mensongère qui permet au diable de te manipuler, de te dominer. Cette voix mensongère qui te pousse constamment vers le chaos, vers le péché. Cette voix mensongère qui t'amène à te détruire. Peut-être que tu es confronté à cette voix. Peut-être que tu fais des choses que tu n'as pas envie de faire. Tu subis le contre-coup. Et tu te dis, Seigneur, mais comment je vais faire? Peut-être que tu as cherché au travers d'une multitude de solutions que la société te proposait. Et le résultat, tu le connais. Tu n'as pas changé malgré tes efforts, malgré cette volonté. Tu n'y arrives pas. Il y a une autre voix qui te parle cet après-midi. Ce n'est pas la voix d'un menteur. C'est la voix de la vérité. Je suis venu te libérer. Je suis celui qui est capable de te libérer. Luc 4, verset 18, il est dit, « Il est venu libérer les captifs. Dites aux prisonniers qu'ils sont libres. » Dans une autre traduction, aller en prison. À Paris, certaines cellules, bâtiments même ont été rénovés. Vous allez dans les cellules, vous voyez, eh bien, un écran plat pour ceux qui ont de l'argent, avec une PlayStation, un lecteur DVD, un poste radio, une douche, une kitchenette pour faire la cuisine, de l'eau chaude, de l'eau froide, avec un petit frigo. Bref, c'est le réaménagement des prisons. Il y en a qui ont même des téléphones portables avec Internet. Ils sont en prison, mais ils communiquent sur Twitter, sur Facebook. Mais n'en demeure pas moins qu'ils sont en prison, privés de liberté. Et la cellule du péché, c'est pareil. En fait, si tu écoutes le diable, il va aménager cette cellule. Il va la décorer même. Il va y mettre du papier peint, de la peinture. Il va tout faire pour que tu y restes. Parce que son objectif, c'est que tu prennes perpète. Que tu y restes à vie. Parce que lui, il veut te condamner à mort. C'est son objectif. Et si tu l'écoutes, tu vas rester longtemps là-dedans. Si tu écoutes ses mensonges, reste comme ça. Ne change pas. Continue à poursuivre ce chemin. Tout le monde le fait. Tout le monde ment. Tout le monde se drogue. Tout le monde est infidèle. C'est pas grave, tout le monde vole, tout le monde fait telle ou telle chose. Regarde autour de toi, allume la télé, tu verras que tout le monde est comme toi. Si tu l'écoutes, tu vas prendre perpète. Le Seigneur a dit, je suis venu libérer les captifs. Je suis venu libérer les captifs. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'un jour, à la croix, il a dépouillé les autorités, les principautés. Il les a livrés publiquement en spectacle. Et aujourd'hui, le diable est un homme qui a perdu toute autorité et qui vient devant toi avec un mensonge, son arme absolue. C'est le mensonge. Et il te fait croire que tu lui appartiens. Il te fait croire que rien ne peut changer, que ta situation restera à jamais comme ça. Mais c'est un menteur. La victoire de Christ à la croix peut être ta victoire. La victoire de Christ à la croix, il veut la partager avec toi. Voilà pourquoi il t'invite. Voilà pourquoi il te dit, viens à moi. Et tu vas expérimenter la véritable liberté. Je suis celui qui libère. Au verset 6, il est dit, ayant vu Jésus de loin, cet homme, ce démoniaque, il avait une qualité, il a vu Jésus. Normalement, le diable aurait dû tout faire pour l'empêcher d'entrer en contact avec le Seigneur. Comme il le fait aujourd'hui, des gens viennent à l'église chargés, pliés, détruits à cause du péché et ne réalisent pas à quel point Dieu les aime. Ils sont aveuglés par l'ennemi, ils ne peuvent même pas entendre la parole de Dieu. Parce que ce que le diable veut, c'est d'emmener avec lui un maximum de personnes en enfer. Mais laisse Dieu te parler cet après-midi. Regarde celui qui t'appelle. Il est ta solution. Il est celui qui peut te sortir du gouffre du péché. Cet homme, il a vu Jésus et il ne s'est pas laissé maintenir par l'ennemi. Non. Quand il voit Jésus, il accourt et il se prosterne devant lui. En fait, quand il voit le Seigneur, il voit la réponse à sa douleur, la réponse à son mal-être, la solution à tous ses problèmes. Alors il accourt. Il se passe quelque chose d'assez spectaculaire, c'est que les démons commencent à trembler. Ils ont peur, ce sont des imposteurs. Ils savent qu'une seule parole du Seigneur est pleinement suffisante pour les sortir de ce malheureux. Une seule parole du Seigneur, une seule parole de Jésus. Combien de fois je me suis regardé dans la glace ? Complètement bourré, complètement défoncé. Et je me disais, mais qui tu es, toi ? Qui, toi ? Non, moi ? Oui, toi. Un ivrogne, un drogué, un voleur, quelqu'un de mauvais. Cette image que j'avais de moi était complètement détruite, complètement brisée à cause du péché. Et à cause de cela, je me suis enfermé, enlisé dans ses mensonges. Je suis un drogué, alors il faut que je me drogue. Un jour, après avoir donné ma vie au Seigneur, j'ai découvert la vérité. La Bible me dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point. Waouh ! Non ! Je ne suis pas une bâtisse ténébreuse. Je suis la résidence principale de Dieu. Je ne suis pas un drogué. Je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Je n'ai pas été placé sur la terre pour être l'esclave du diable. Non ! Je suis un enfant de Dieu, libre. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, elles ont disparu. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, la métamorphose se produit. On passe d'une vulgaire limace à un magnifique papillon. C'est la métamorphose, une chenille, une limace. Enfin, vous m'avez compris. Jésus-Christ va permettre aux démons, je ne sais pas pourquoi, il va leur accorder une faveur. Ils vont entrer dans des ports. Animal impur par excellence. Les démons étant impurs, ils devaient se sentir bien à l'aise en compagnie des cochons. Vous savez, en examinant un peu ce texte, on peut s'apercevoir que le cochon n'est pas si bête que ça. Quand on lit la Bible, le cochon porte une image bien dégradante. Ma sœur, si tu veux faire l'expérience, tu vas chez un fermier qui a un élevage de porc, tu prends un porc, tu le laves au karcher, un petit coup de rouge à lèvres, un peu de parfum, tu verras, 2 minutes plus tard, il se vautre dans la boue. C'est dans sa nature d'être sale, le cochon, il est comme ça. Et pour certains, je ne sais pas pour toi, mon frère, tu es de quelle origine ?
Française.
Française. Excuse-moi, mais Tu fais un peu typé. Mais disons que si tu as déjà été en Algérie, en Iran, disons, tu ne rentres pas avec un cochon. Tu ne peux pas rentrer avec un cochon en Iran. C'est interdit, les porcs sont interdits. Pour moi, mon épouse est de la Martinique. Il y a des Martiniquais ici ? Voilà, quelques Martiniquais. Alors là-bas, ils ont une spécialité qui est le plat favori de mon épouse, c'est les queues de cochon haricots rouges d'ombré. Ah ça, les porcs, ils terminent dans l'assiette là-bas. Toujours est-il que le troupeau de cochons est envahi par les puissances de l'enfer. Ils sont là, ils sont en train de paître et ils commencent à gamberger, à réfléchir. Ils se disent, il se passe quelque chose d'anormal. Nous, on est sales, mais eux, ils sont pires que nous. Et plutôt que de cohabiter avec les démons, savez ce qu'ils ont fait, les porcs ? Ils se sont suicidés. Suicide collectif de porcs, 2000 porcs se sont jetés dans la mer. J'aimerais te dire que tu es la plus belle créature de Dieu. Qu'il n'y a personne comme toi sur la terre. Tu es unique, tu es parfait. Tu ne peux pas être une erreur. Que tes parents t'aient voulu ou pas, je ne sais pas, je ne connais pas les conditions de ton arrivée sur la terre, mais je sais une chose, tu ne peux pas être une erreur. Pour la simple et bonne raison que Dieu ne commet jamais d'erreur. Tout ce que Dieu fait est parfait. Et quand le péché vient frapper à ta porte, quelle est ta réaction? Quand l'ennemi vient te dire c'est ton heure, quelle est ta réaction? C'est l'heure de t'exécuter. C'est l'heure d'aller sur Internet pour regarder certains sites. C'est l'heure d'aller au bistrot pour jouer au jeu. C'est l'heure d'aller dans tout un tas d'endroits où ça sent mauvais, où le péché règne. C'est l'heure. En fait, tu n'as pas été placé sur la terre pour être l'esclave du diable. Jésus-Christ veut faire de toi un homme libre, un homme heureux. Et il t'aime tellement qu'il veut habiter avec toi. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. Oui. Quand tu lis la parole de Dieu, tu découvres l'amour de Dieu pour toi. Tu découvres pourquoi Dieu t'a placé sur la terre, à quoi il t'a destiné. Et aujourd'hui, quelle que soit ta prison, tu peux en sortir. Tu peux en sortir. Après que cet homme ait expérimenté la puissance de Dieu, nous le retrouvons là, assis, vêtu et dans son bon sens. Il y a quelques minutes, il n'avait plus d'avenir. Il était fou, allié. Et là, après sa rencontre avec le Seigneur, nous le retrouvons assis, revêtu de la justice et de la grâce de Dieu. Une nouvelle vie commence avec Christ et en Christ. Voilà le résultat d'une personne qui vient au Seigneur. Moi, je suis toujours heureux lorsque je vais dans ces endroits où ça sent mauvais, où l'ennemi impose des jougs. Je suis heureux parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'un homme qui vient à lui. Avec Dieu, tout peut changer. Tout peut changer avec Christ. Et ça peut changer aujourd'hui pour toi. Ça peut changer. Ça peut changer. Cet homme, après avoir goûté à l'amour de Dieu, maintenant il veut monter dans la barque. Rester attaché à Christ. Jésus va lui dire non. Va dans ta maison et raconte. Il avait une maison, un problème. Pour résoudre son problème, on l'a enterré vivant. Voilà pourquoi chaque jour se résumait à une multitude de souffrances. Je vois cet homme rentrer chez lui. Sa femme, ses enfants l'accueillirent en larmes. Son épouse lui dit « Mais je pensais que tu étais mort. » On m'a dit que tu étais fou, que tu avais perdu la raison. J'ai dit aux enfants que plus jamais ils ne reverraient ton visage. Je pensais que tu étais mort. Et je vois cet homme regarder sa famille et leur dire « C'est vrai que j'étais mort. C'est vrai que j'étais fou. C'est vrai que chaque jour était un véritable calvaire. Mais là, dans mon gouffre, dans mon chaos, au milieu de cette tombe dans cet endroit impur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, il m'a visité. Il m'a libéré. Il m'a rendu la vie. Et il ne s'est pas contenté simplement de témoigner à sa famille. Et il nous a dit qu'il a publié l'évangile dans toute la Décapole. Des villes ont été impactées, bouleversées, transformées par un sale message. La grâce de Dieu. Pas un homme, pas un ange ne peut vous parler de la grâce de Dieu comme ce pauvre pécheur qu'il a expérimenté. Pourquoi ? Parce que lui, il sait ce que c'est la grâce de Dieu. Grâce de Dieu. Conclusion. Je vous en ai parlé un peu ce matin de mon frère. Beaucoup de similitudes avec cette personne. Fait tout un chapitre sur les addictions qui étaient, faisaient partie de la vie de mon frère. Mon frère, 11 ans, commence à fumer de la cigarette. Les années qui passent, mon frère va devenir ce qu'on appelle un multitoxicomane. Tout ce qui était susceptible de le faire planer, il l'absorbait. Et avec le temps, il a développé des maladies psychologiques, la schizophrénie. Mon frère frappait les gens, il devenait violent. À cause de ça, il va connaître 19 fois la prison, 19 fois la prison. Et là encore, quand il est en prison, sa mère me met de la drogue dans les poches pour que je lui ramène. En fait, c'est un endroit de destruction également pour lui. Et vous voyez, mon frère, parfois, prendre des lames de rasoir, se taillader le corps. Et il prenait ses lames, il se découpait les cuisses. Une fois, je me souviens que j'ai retrouvé mon frère, la tête dans le four, le gaz allumé, il était inconscient, il avait fait une tentative de suicide. Et il n'était pas heureux. Parfois, il venait pleurer dans mes bras, partager ses angoisses, ses souffrances. Et moi, qui n'étais qu'un adolescent, je lui disais plus tard, tu verras, tu auras une famille, tu seras heureux, tu auras un travail, ça sera fini tout ça. Mais ça n'est jamais arrivé. Lorsqu'il s'est fait tuer, médecin légiste nous a appris que ce jour-là, il était sous l'emprise de la cocaïne et de l'alcool. Pourtant, si c'était maintenant, si je pouvais simplement m'adresser à lui, je lui dirais, hey, frangin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je connais une personne qui peut te libérer. Je connais une personne qui peut briser ces chaînes pesantes sur toi. Je connais quelqu'un qui peut changer ta vie maintenant. Cette personne, c'est Jésus. Donne-lui ta vie, viens à lui. Viens à lui. Mais il n'est plus là. C'est trop tard. Certains me disent, Yanis, quand tu parles, on dirait que tu es en colère. Il y a une certaine fougue qui est en toi. Je crois qu'il faut être en colère pour dénoncer les œuvres de l'ennemi. Je crois que, parfois, le poids des mots peut être synonyme d'électrochoc. C'est comme quelqu'un qui fume la cigarette depuis des années et qui, à un moment donné, va consulter un médecin parce qu'il tousse, parce qu'il se sent mal, et le médecin qui lui dit « Monsieur, si vous n'arrêtez pas de fumer, dans 6 mois, vous n'êtes plus là. » Et le message de Dieu, il est là. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi Dieu t'alerte. Dieu ne cesse de t'interpeller. Dieu ne cesse de te tendre les bras parce qu'il ne veut pas que tu restes sur cette voie. Alors il t'appelle, ne reste pas là, mon enfant. Ne reste pas là, sinon tu vas mourir. Tu te mets en danger. Sors de là. Sors de là, viens à moi. Et tu verras, je te donnerai la force. Marcher en nouveauté de vie. Tu pourras expérimenter enfin ma parole dans ta vie. Tu pourras vivre cette vie à laquelle tu aspirais. Oui, tu pourras devenir enfin celui que tu souhaitais. Alors, Nous allons simplement prendre un temps de prière. Je vais faire deux appels. Ils sont importants. Mère, pour toutes les personnes qui n'ont pas encore pris la décision de confier leur vie au Seigneur, le second appel, ce sera un appel plus des personnes qui sont malades et qui ont été interpellées par ce message. J'aimerais demander à l'Église de se lever, s'il vous plaît. S'il y a l'ombre d'un soupçon dans votre cœur, si vous savez que vous n'avez pas confié votre vie au Seigneur, alors, je demande de prendre cette décision, de venir au Seigneur comme cet homme l'a fait, pour expérimenter la vie de Jésus au sein de la vôtre. Si vous voulez inviter Jésus, répétez après moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu aujourd'hui ta parole et je sais que tu es mort pour mes péchés, pour lesquels je te demande pardon. En ce jour, je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je me repens d'avoir vécu pour moi-même et je prends l'engagement de te suivre jusqu'à la fin de mes jours. Amen.